Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Cher Robin Dorcé, les Camille Gros-Didier, bonsoir et bienvenue à l'édition du 30 juillet 2015. Au sommaire ce soir.
Le Cameroun et le Nigeria annoncent le renforcement de leur coopération dans la lutte contre Boko Haram.
Au Burundi, l'opposant Agathon Rwasa est élu deuxième vice-président de l'Assemblée nationale alors qu'il dit ne pas reconnaître les récentes élections.
Pluie torrentielle et inondations en Guinée, bilan provisoire au moins 3 morts.
Afghanistan, les insurgés talibans ont un nouveau chef pour remplacer le Mollah Omar.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal.
Les présidents nigériens Muhammadu Buhari et camerounais Paul Biya ont décidé de renforcer la coopération entre leurs deux pays pour combattre les insurgés islamistes de Boko Haram, au terme d'une visite de M. Buhari à Yaoundé. Bagassi Koura nous en dit plus.
Le président camerounais Paul Biya et son homologue nigérien Muhammadu Buhari en visite au Cameroun se sont publiquement engagés à collaborer pour juguler la menace de la secte islamiste nigériane Boko Haram. Le Cameroun et le Nigeria sont tous deux membres de la commission du bassin du lac Tchad, composée en outre du Tchad, du Niger et de la Libye, qui cherche à opérationnaliser une force de lutte contre Boko Haram. La milice djihadiste suscite par ses massacres au Nigeria, au Tchad, au Cameroun et au Niger un climat d'insécurité et d'instabilité inégalé. Depuis la mi-juillet, près d'une soixantaine de personnes ont été tuées dans une demi-douzaine d'attentats suicides.
10 pêcheurs ont été égorgés par des islamistes de Boko Haram dans 3 villages proches de Baga, sur les rives du lac Tchad, dans le nord-est du Nigeria. C'est ce qu'a rapporté jeudi un responsable local et un habitant. L'attaque a eu lieu lundi, mais la région étant très isolée, la nouvelle n'a été apprise que jeudi.
Le principal opposant burundais, Agathon Rwasa, a été élu ce jeudi premier vice-président de l'Assemblée nationale du Burundi, malgré son opposition aux récentes élections controversées, élections qui ont reconduit le président sortant Pierre Nkurunziza au pouvoir. Les précisions d'Idrissa Seloudia.
Au milieu d'une crise politique sans précédent depuis la fin de la guerre civile de 1993 à 2006, crise déclenchée par la candidature controversée du président Nkurunziza en troisième mandat, M. Rwasa a été élu avec 108 voix sur 112, dont le soutien du CNDD-FDD, le parti présidentiel. L'ensemble des opposants, dont Agathon Rwasa, avait boycotté les élections législatives et communales du 29 juin et la présidentielle du 21 juillet, mais la commission électorale avait maintenu leur candidature. Agathon Rwasa, que cite l'AFP, avait expliqué lundi qu'il voulait jouer le jeu pour aider à sortir son pays de la crise, un choix qui crée des remous dans l'opposition. On doit se rendre à l'évidence, le forcing de Nkurunziza a bien réussi, avait-il dit lundi en demandant « Faut-il abandonner à leur sort tous ces gens qui ont voté pour nous, quand bien même les résultats publiés ne sont pas si réalistes que ça ?»
Le Parlement tchadien devait se prononcer ce jeudi sur un projet de loi antiterroriste élaboré après les sanglants attentats de N'Djamena le mois dernier, qui inquiète l'opposition, les défenseurs des droits humains. Le Tchad, impliqué dans la coalition régionale formée début 2015 contre les islamistes nigérians de Boko Haram, a été frappé par 2 attentats suicides en moins d'un mois.
La capitale guinéenne, Conakry, est frappée depuis au moins 5 jours par des pluies torrentielles qui paralysent l'activité économique et ont provoqué la mort d'au moins 3 personnes alors que la saison des pluies n'est pas terminée, selon notre correspondant sur place à Conakry. On signale d'importants dégâts matériels et humains, certaines rues devenant des torrents, ce qui a provoqué d'importants embouteillages et des accidents de la circulation. Selon la radio nationale, que cite l'AFP, plusieurs zones se sont retrouvées complètement submergées d'eau. Nous y reviendrons dans la partie magazine.
Le gouvernement sénégalais s'est engagé auprès de la Banque mondiale à utiliser durant l'année budgétaire 2016 l'outil Boost. Cette plateforme en ligne permettra aux Sénégalais d'accéder aux données budgétaires de l'État, renforçant ainsi la transparence dans la gestion publique. L'annonce a été faite mercredi à Dakar par Cheikh Tidiane Diop, secrétaire général du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Il s'exprimait en marge d'une conférence internationale sur l'initiative Boost de la Banque mondiale. Le Sénégal a adopté en décembre 2012 une loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques.
Un journaliste de la radio angolaise d'opposition, Radio Despertar, a été brièvement arrêté en marge d'une manifestation organisée pour la libération de 15 opposants et réprimée mercredi par les forces de l'ordre. Gonçalves Vieira, dont la radio soutient régulièrement les appels à manifester des jeunes contestataires au régime, a été interpellé avec 4 autres personnes avant la manifestation. 5 autres auraient été arrêtés pendant la manifestation, selon certaines sources. Une importante opération de la police qui a encerclé le bâtiment abritant Radio Despertar a par ailleurs dissuadé les journalistes de la rédaction de sortir pour couvrir la manifestation, selon l'ONG Reporters sans frontières.
Médecins sans frontières dit avoir terminé cette semaine une campagne de vaccination contre le choléra pour l'ensemble de la population burundaise et congolaise du camp de Nyarugusu dans l'ouest de la Tanzanie. L'ONG s'inquiète néanmoins de la précarité des conditions de vie des réfugiés et du surpeuplement dans le camp. La campagne de vaccination qui a été menée en collaboration avec le ministère de la Santé tanzanien, l'Organisation mondiale de la santé et le Haut Comité pour les réfugiés des Nations unies, le HCR, répondait à une épidémie de choléra qui a touché les populations réfugiées en mai.
Bonne nouvelle pour les catholiques béninois, 13 nouveaux diacres pour l'archidiocèse de Cotonou, signale Radio Vatican. Ils ont été ordonnés par l'archevêque du lieu, Mgr Antoine Gagné, en présence d'une centaine de prêtres, concélébrants, de religieuses et religieux.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les talibans afghans ont un nouveau chef. Il a été choisi après la confirmation par de hauts responsables du mouvement de l'annonce faite hier par le gouvernement de Kaboul relative à la mort en avril 2013 de leur chef, le mollah Omar. Lionel Gaïma.
Deux dirigeants talibans ont indiqué à l'Associated Press que le Conseil suprême des talibans, la Shura, a désigné Mollah Akhtar Mansour, adjoint de longue date au Mollah Omar, pour prendre les rênes du mouvement. Les talibans ont également choisi Sirajuddin Haqqani comme leur numéro 2. Haqqani, qui dirige un réseau extrémiste lié à Al-Qaïda, fait l'objet d'une prime de 10 millions de dollars offerte par le gouvernement américain pour son arrestation. Les 7 membres de l'Assemblée s'étaient réunis à Quetta, au Pakistan, pour ce vote, apprend-on de même source. Déjà, le choix de Mansour, qui est considéré comme proche des autorités d'Islamabad, menace de diviser les insurgés afghans. Ils vont peut-être se scinder, opinent certains analystes cités par l'AFP. Certains pensent que peut-être un petit groupe ira de l'avant dans les pourparlers de paix, mais que la majeure partie des talibans rejoindra un autre groupe comme le groupe État islamique, moins implanté sur le territoire afghan, mais plus radical que les talibans. Début janvier, rappelle l'AFP, une dizaine d'ex-commandants talibans ont fait allégeance collectivement à Daesh, qui les a ensuite nommés à la tête de sa branche de Khorasan, région réunissant le Pakistan et l'Afghanistan.
La Birmanie a ordonné la libération de milliers de prisonniers, dont des dizaines de bûcherons chinois, lors d'une amnistie de masse, signe de bonne volonté des autorités après les accrochages avec ses voisins. Claire Morin-Gibourg.
Sur ordre présidentiel, la Birmanie va relâcher 6966 détenus, dont 210 étrangers, dans tout le pays, pour bonne conduite. Selon le communiqué du ministère de l'Information, cette décision est de la part des autorités un signe de bonne volonté et vise à maintenir des relations amicales entre les pays. Parmi les prisonniers libérés figurent notamment 155 Chinois qui avaient été condamnés la semaine dernière à de très longues peines pour abattage illégal d'arbres et trafic de bois dans le nord du pays. Condamnation qui avait dégradé des relations sino-birmanes déjà très tendues. En dehors de ces bûcherons chinois, les autorités n'ont en revanche pas clairement précisé si des prisonniers politiques figurent parmi les personnes qui vont être libérées. Cette décision est la dernière en date d'une série d'amnisties depuis l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement civil qui a relâché des centaines de dissidents.
4 participants à un défilé d'homosexuels à Jérusalem ont été blessés mercredi par un homme qui les a attaqués à coups de couteau, selon les services de sécurité et de santé israéliens. Selon la radio israélienne, l'agresseur est un juif ultra-orthodoxe. La police a indiqué qu'il a été arrêté. Le Magen David Adom, l'équivalent de la Croix-Rouge, a pour sa part précisé qu'un des blessés est dans un état critique, tandis que les 3 autres ont été moins sérieusement atteints, précise l'agence France-Presse.
Plusieurs centaines de migrants se sont de nouveau introduits sur le site d'Eurotunnel à Calais dans la nuit d'hier à aujourd'hui pour tenter de rejoindre l'Angleterre. La police a procédé à environ 300 interceptions et comptabilisé entre 800 et 1000 migrants aux alentours du site. Mercredi, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve avait annoncé le déploiement de 120 policiers supplémentaires sur le site afin de sécuriser les abords du tunnel sous la Manche. Malgré tout, des migrants ont tenté de s'introduire sur le site par tous les moyens possibles, en passant à travers champs ou en escaladant les grilles. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Place maintenant à la Minute Éco, un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Michel Joseph.
La République démocratique du Congo, RDC, a réceptionné jeudi à l'aéroport international de Kinshasa un Airbus A320 destiné à sa future compagnie aérienne nationale, Congo Airways. Cet appareil, baptisé Patrice Emery Lumumba, nom du premier Premier ministre du Congo indépendant, devait à l'origine arriver le 30 juin, jour de la fête de l'indépendance de l'ancienne colonie belge, mais la compagnie a choisi de reporter la date pour que l'avion puisse arriver aux couleurs du pays. Un deuxième A320 doit se poser le 25 août. Les deux appareils ont été achetés d'occasion à la compagnie italienne Alitalia pour quelque 50 millions de dollars, selon des sources proches de la transaction que cite l'AFP. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo était présent à l'aéroport de Ndjili. Envoyé par notre station partenaire Top Congo FM, un extrait de ses propos.
Il y a une signification profonde, historique, patriotique, nationaliste. Et là, nous avons un symbole vivant du patriotisme, un symbole vivant du nationalisme. Lorsque le président de la République choisit le nom de Patrice Emery Lumumba, c'est un message fort qu'il envoie à tous les Congolais.
Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi son intention de lever sur le marché régional, à travers les soukouks, obligations islamiques, 150 milliards de francs CFA d'ici la fin de l'année. Le soukouk est un emprunt obligatoire islamique qui est à la finance islamique, ce que les Asset-Backed Securities, ABS, sont à la finance conventionnelle.
Merci Michel Joseph pour la Minute Éco.
C'est Le Monde aujourd'hui, c'est aussi les sports. Et en studio avec nous, c'est Nicolas Pineau. Salut Nicolas.
Bonsoir chérubin.
Nouveau soutien pour Michel Platini avant l'élection à la présidence de la FIFA. Quand sait-on ?
Le président de la Fédération italienne de football, Carlo Tavecchio, a annoncé qu'il soutenait la candidature de Michel Platini. « Nous soutiendrons cette candidature parce que c'est un dirigeant préparé et capable d'engager les réformes nécessaires » pour relancer le très grand organisme footballistique mondial. C'est ce qu'il a écrit dans un courrier adressé au secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valk. Français d'origine italienne et longtemps vedette de la Juventus de Turin, Michel Platini avait pourtant déçu dans la péninsule quand, quelques mois après son arrivée à la tête de l'UEFA en 2007, il avait attribué l'Euro 2012 à la Pologne et à l'Ukraine et non à l'Italie qui était alors favorite. Sachez également que la Confédération asiatique de football a apporté son soutien à Michel Platini. Par ailleurs, le sud-coréen Chung Mong-joon, pardon de la prononciation, ancien vice-président de la FIFA et personnalité incontournable du football asiatique, a annoncé son intention de briguer la présidence de la FIFA.
Copa Libertadores de América.
Les Tigres de Monterrey ont été tenus en échec à domicile 0-0 la nuit dernière par les Argentins de River Plate en finale aller. Les Tigres qui n'ont jamais remporté cette compétition devront jouer un match retour compliqué à Buenos Aires. Ce sera le 5 août prochain.
Et parlons de cette petite victoire du Real.
Impressionnant face à Manchester City puis l'Inter de Milan lors de ses deux dernières sorties en amical, le Real de Madrid a montré un triste visage contre le Milan AC dans le cadre de l'International Champions Cup à Shanghai. Le club merengue s'est tout de même imposé à l'issue d'une longue séance de tirs au but dans la chaleur de Shanghai.
Ce soir encore, on va parler de transfert.
Le défenseur zambien Stopila Sunzu a été prêté à Lille pour la saison 2015-2016 par le club chinois de Shanghai. À 26 ans, Sunzu était déjà passé par la Ligue 1 avec le club sochalien qui était alors entraîné par Hervé Renard, le nouveau coach lillois avec lequel il a été sacré champion d'Afrique lors de la CAN 2012.
Merci Nicolas Pineau pour la page sport.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorcel et Camille Gros-Didier, heureux d'être en votre compagnie. Dossier du jour, Camille.
Eh bien, c'est d'abord le bureau de la nouvelle Assemblée nationale burundaise qui a été voté par 112 des 121 de ses membres. Une nouveauté, l'ancien chef rebelle Agathon Rwasa, qui a appelé au boycott des élections de juin et de juillet dernier, devient premier vice-président. Et sans surprise, Pascal Nyabenda est élu président. Le dernier élu est l'ancien ministre de l'Intérieur, Edouard Nduwimana, qui devient deuxième vice-président. Aucune femme n'a été élue, contrairement à la pratique depuis 10 ans. Le point avec Christophe Nkurunziza, notre correspondant à Bujumbura.
La doyenne Immaculée Nahaye de l'Assemblée nationale burundaise confirme que le président du bureau vient d'être élu conformément au règlement d'ordre intérieur et à la constitution à plus de 99%. Pascal Nyabenda, hier président de la machine CNDD-FDD, a aujourd'hui le contrôle de l'action gouvernementale pour les 5 prochaines années. L'ancien Macky Sall de la République, Agathon Rwasa, qui avait élu domicile jadis sur les montagnes surplombant la capitale, devient un des hommes forts du régime de Bujumbura. Les 3 hommes qui se regardaient hier en chien de faïence doivent aujourd'hui penser à l'avenir législatif du Burundi ensemble. Fini les brouilles. Quand Edouard Nduwimana a indiqué que le parti FNL d'Agathon Rwasa n'était pas connu par la loi burundaise, tout cela est dû passer, comme l'indique le président Pascal Nyabenda. Nyabenda indique qu'il va travailler avec tout le bureau en vue de trouver des solutions aux problèmes auxquels ils feront face et penser surtout au bonheur des parlementaires, leurs collègues. Agathon Rwasa a lui indiqué qu'il va travailler d'arrache-pied pour une paix durable pour tous les Burundais, sans exclusive aucune. Il est à remarquer que pour la première fois depuis 10 ans, le bureau de l'Assemblée nationale est totalement masculin. Les parlementaires avaient rejeté un article du règlement d'ordre intérieur stipulant que moins un des membres du bureau devait être de sexe féminin. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, pour La Voix de l'Amérique.
Nouveau numéro de Washington Forum consacré cette semaine au voyage de Barack Obama au Kenya et en Éthiopie. Le président américain a mis l'accent sur l'économie et la lutte contre le terrorisme. Qu'avez-vous pensé de ce voyage de Barack Obama? Venez en débattre sur notre page Facebook et rendez-vous ce jeudi dans Washington Forum, 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
En Guinée, de fortes pluies s'abattent sur Conakry depuis plusieurs jours, entraînant des inondations et la mort de plusieurs personnes. Pour des précisions, on écoute notre correspondant Zakaria Camara.
Dans plusieurs quartiers de Conakry, c'est la désolation. Certaines familles ont été chassées par l'eau, d'autres obligées de mouiller les pieds. Et pire, 4 personnes sont mortes, dont 2 tombées dans des caniveaux. L'échangeur construit devant l'aéroport international Conakry-Bessia est resté pendant des heures impraticable par les véhicules parce que rempli d'eau. C'est l'une des conséquences des fortes pluies qui s'abattent sur Conakry depuis une semaine. Les chauffeurs de taxis urbains expliquent leur peine.
Quand il pleut, il y a l'eau sur la route. Il n'y a pas là où les passagers vont s'arrêter. Ouais, ça nous fatigue vraiment. Sur le pont là-bas, quand il pleut là, c'est pas facile qu'on passe. Il n'y a pas la route là où passer.
Ça nous fatigue beaucoup avec les clients. Le client peut monter dans la voiture, mais comment monter? Des fois, il faut le prendre au dos pour le faire rentrer dans le taxi.
Porter le passager pour l'installer dans le taxi, une situation vécue par de nombreux habitants de la capitale. Certains, comme ces 2 citoyens, ne sont pas au bout de leur peine.
On rencontre assez de difficultés. Les chaussées, tout est mouillé, il y a de l'eau partout. C'est vraiment très difficile. Je suis là et je ne trouve pas de taxi, je vais aller à Madina. Et il y a plus de clients que de taxis.
Les 2 jours-là, je ne suis pas venu par là parce que je n'ai pas pu avoir de voiture pour atteindre ma destination. Et puis, des passagers qui cherchent coûte que coûte à partir des plaques, les voitures qui se font rares.
Conakry, une presqu'île sous la pluie, semble impuissante face à l'agression des eaux qui, par endroits, forcent le passage à défaut des canalisations. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Siguiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Camille Grandidier avec vous. Après la décision du gouvernement gabonais de relever les salaires de tous les agents de la fonction publique, les dirigeants du secteur syndical ne cachent pas leur satisfaction. Tout en signalant que bien d'autres revendications doivent encore faire l'objet de négociations avec le pouvoir. Ce n'est que le premier pas vers un véritable apaisement social, a déclaré le président de la Confédération syndicale de l'administration publique, Joël Ondo Ella.
Les syndicats que nous sommes peuvent dire que c'est une victoire. Victoire pour nous parce que l'objectif d'un syndicat, c'est d'améliorer la condition de vie du travailleur. Et lorsque nous sommes parvenus à une augmentation substantielle ou moyenne, il est vrai que les travailleurs ne peuvent pas avoir la même vision ou la même augmentation, mais pour peu qu'il y ait quelque chose qui soit ajouté, nous pouvons dire que c'est une victoire pour les syndicats au niveau du Gabon.
Alors, est-ce que vous allez continuer à lutter sur d'autres fronts, avec d'autres revendications?
Oui, nous pensons que sur les discussions qui étaient mises sur la table et pour lesquelles nous sommes allés auprès du chef de l'État, le nouveau système de rémunération n'était qu'un point de la revendication, un point du cahier de charge présenté par l'ensemble des syndicats. Et aujourd'hui, il faut dire qu'au niveau du nouveau système de rémunération, il y a bien des éléments qu'on doit parfaire. À savoir, il faut mettre la caisse des pensions en place. Il faut que tout de suite, cette caisse des pensions soit mise en place parce que le taux de cotisation au niveau de la retraite, puisque les salaires ont été revus à la hausse, il va falloir que cette caisse des pensions soit mise en place. Il va falloir qu'on puisse regarder les situations administratives dans le sens des directions centrales des ressources humaines, au point qu'il ne devrait plus avoir des agents qui tuent les années durant pour attendre leur nouvelle situation. Il faudrait que nous revenions sur d'autres axes, à savoir les axes juridiques qui puissent conforter la loi sur le nouveau système de rémunération. Et je parlerai de la prime de technicité qu'il faut parfaire, parce que lorsqu'on est recruté à la fonction publique, c'est la prime de technicité ou de spécialité qui fait de vous un agent public, mais exerçant pour telle ou telle spécialité. Et nous pensons qu'il n'y a qu'un point qui a été évacué et qui doit être amélioré, mais d'autres points de revendication devraient naturellement, si le gouvernement voudrait bien faire et ne pas dissiper les énergies, ouvrir un cadre de discussion permanent pour que les revendications qui ont été posées ne soient plus peut-être éladées dans un contexte de crise, mais dans un contexte de concertation, de dialogue permanent.
Ne risque-t-il pas d'être difficile au gouvernement de faire d'autres concessions?
Vous savez que tout ce qui a été discuté n'engageait pas forcément l'incident financier. Il y a, par exemple, le cadre de travail des agents. Il y a bien des éléments qui puissent conforter la productivité.
Cela reflète le souhait de tous les syndicats du secteur public au Gabon?
Aucun syndicat ne dépose un cahier de charges pour ne pas être entendu, pour ne pas discuter. Tout syndicat voudrait bien qu'après avoir recueilli le point de vue ou la revendication des travailleurs, qu'il se rapproche de l'employeur ou de la puissance publique chez l'État pour que sa voix soit entendue, c'est ça la crédibilité. Mais s'il y a un syndicat qui voudrait avoir la revendication et être écouté, je crois que ce syndicat ne voudrait pas me dire qu'il a les moyens de satisfaire aux préoccupations des travailleurs sans l'implication de l'employeur.
Le syndicaliste gabonais Joël Ondo Ella, il était joint à Libreville par Chérubin Dorsil.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Que se passe-t-il dans l'administration publique au Burkina Faso, Camille?
Eh bien, il a été constaté que plus de 1200 agents de l'État ne se sont pas présentés pour percevoir leur salaire du mois de mai. Au Faso, on les appelle des fonctionnaires fictifs. Mais le sont-ils tous? Des éléments de réponse avec un reportage de Zoumana Ouonogo, notre correspondant à Ouagadougou.
De cette affaire dite affaire fonctionnaire fictif, voici ce qu'en pensent les Burkinabés.
Vu le nombre, et j'imagine le coût, c'est que ça a valu qu'on perde 2 milliards au pays. c'est très énorme. Ça prouve à quel point il y avait du laisser-aller pendant le régime Compaoré. Les gens en profitaient et chacun faisait ce qu'il voulait, tout en sachant que, bon, ils étaient vraiment sûrs d'eux que rien ne pouvait les arriver. Heureux que les choses soient passées autrement, qu'on arrange tout ce qui ne va pas. Le laisser-aller sous le régime Compaoré doit forcément changer.
Ah, vraiment, je suis déçu et c'est une honte. Sur ce point, je ne suis même pas d'accord. Parce que nous, on est là, on cherche le travail. C'est un gain. Le travail, ils ne sont pas à leur poste. Et par moi, on le paye quand même et personne ne le connaît. C'est une honte pour l'administration. Et nous, maintenant, on cherche à s'intégrer et c'est dur. Dans la fonction publique, c'est dur.
Chez les syndicalistes, on a du mal à comprendre la situation. Voici l'avis de Norbert Wangré. Il est le secrétaire général adjoint de la CGTB. Confédération générale du travail du Burkina.
De notre point de vue, il faut situer les responsabilités, comprendre ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. S'il y a des sanctions à prendre, il faut les prendre. Parce qu'il y a des situations, effectivement, qui ne s'expliquent pas. Quand un agent est décédé depuis 2, 3, 4, parfois même plus de 5 ans, et on retrouve encore son nom dans les actes administratifs, pour nous, ça pose problème. C'est-à-dire que quelque part, des gens ne font pas leur boulot. Ou bien, même pour les indemnités, il y a des gens qui vont signaler qu'effectivement, ils ont changé. Ils ne méritent plus telle indemnité. Ils souhaitent qu'on les remette dans la catégorie normale. Et malgré tout, ça ne se fait pas. Donc tout ça, il faut effectivement situer les responsabilités.
S'il n'y avait pas eu le biétage, en serait-on toujours à payer des agents publics qui ne le méritent pas? C'est la question que nous avons posée à Élisée Ouédraogo, le directeur général de la fonction publique. Suivons sa réponse.
Oui, bien évidemment, parce que dans la gestion donc de la carrière des agents de la fonction publique, ça fait en gros 130 000. Et ce sont des gens qui sont disséminés sur tout le territoire national. Du coup, un agent peut changer de situation administrative. Un agent peut abandonner son poste, mais le temps que l'information donc revienne au niveau de la fonction publique, il peut y avoir un décalage. Comme vous le savez, nous sommes dans un contexte où très souvent, des gens ne sont pas là, des chefs de service donc qui ne prennent pas leurs responsabilités et qui font que il faut très souvent des actes courants comme ça.
Maintenant que le poteau rose est découvert, quelle action entreprendre? Élisée Ouédraogo, le directeur général de la fonction publique, répond.
Si on détecte parmi ces 1213 personnes qu'il y a des gens qui sont en situation d'abandon de poste, il va être procédé très rapidement à ce qu'on appelle donc des mises en demeure d'avoir à rejoindre leur poste.
Zoumana Ouanogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Un rappel des principaux points de l'actualité.
Eh bien, le Cameroun et le Nigeria ont annoncé le renforcement de leur coopération dans la lutte contre Boko Haram.
Au Burundi, l'opposant Agathon Rwasa est le premier vice-président de l'Assemblée nationale alors qu'il dit ne pas reconnaître les récentes élections législatives et présidentielles.
La capitale guinéenne, Conakry, est frappée depuis au moins 5 jours par des pluies torrentielles qui paralysent l'activité économique et ont provoqué la mort d'au moins 3 personnes, alors que la saison des pluies n'est même pas terminée.
Le gouvernement sénégalais s'est engagé auprès de la Banque mondiale à utiliser durant l'année budgétaire 2016 l'outil Boost, une plateforme en ligne qui permettra aux Sénégalais d'accéder aux données budgétaires de l'État, renforçant ainsi la transparence dans la gestion publique.
Le Parlement tchadien doit se prononcer ce jeudi sur un projet de loi antiterroriste élaboré après les attentats sanglants de N'Djamena le mois dernier qui inquiète l'opposition et les défenseurs des droits humains.
La Birmanie a ordonné la libération de milliers de prisonniers, dont des dizaines de bûcherons chinois, lors d'une amnistie de masse, signe de bonne volonté des autorités après des accrochages avec les voisins de la Birmanie.
Médecins sans frontières dit avoir terminé cette semaine une campagne de vaccination contre le choléra pour l'ensemble de la population du camp de Nyarugusu dans l'ouest de la Tanzanie.
C'est tout pour cette édition du Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Joselle Morissin. Brian Marcoulier était à la console. Présentation, Camille Grosdidier et Chérubin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Restez à l'écoute de La Voix de l'Amérique. Très bonne soirée.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.